N'as-tu pas vu un grand cerf fuyant ? Lui demanda le roi. L'homme hocha la tête et répondit. « Oui, dame, mon sire, un animal, comme vous le dites, m'a passé au nez tout à l'heure. Il portait la hotte et tirait la langue. C'est sûrement votre bête. Vous n'aurez point long à courir. Comme il était, il cherchait l'eau. N'en trouvera qu'aux étangs de fontaine. »
Avait-il les chiens après lui ?
« Point de chien, mon sire, mais vous reprendrez sa voix après ce grand être là-bas. Il va aux étangs. »
Le roi s'étonna. « Tu as l'air de savoir le pays et la chasse, » dit-il. Le visage du manant se fendit d'un bon sourire. De petits yeux marrons et malins fixaient le roi.
« Je sais le pays et la chasse un peu, » dit l'homme. « Et je souhaite qu'un aussi grand roi que vous êtes y goûte longtemps son plaisir, tant que Dieu veuille. »
« Tu m'as donc reconnu ?» L'autre hocha la tête de nouveau et dit fièrement.
« Je vous ai vu passer lors d'autres chasses, et aussi monseigneur de Valois, votre frère, quand il est venu affranchir les serfs du comté. »
« Tu es homme libre ?»«
Grâce à vous, mon sire, et point serf comme je suis né. Je sais mes chiffres et tenir le stylet pour compter s'il le faut. »
« Es-tu content d'être libre ?»«
Content ? Sûr qu'on l'est. C'est-à-dire qu'on se sent autrement. On cesse d'être comme des morts en notre vivant. Et nous savons bien, nous autres, que c'est à vous qu'on doit les ordonnances. On se le répète souvent, comme notre prière sur la terre. » Attendu que toute créature humaine qui est formée à l'image de notre Seigneur doit généralement être franche par droit naturel.
C'est bon d'entendre ça, quand on se croyait pour toujours ni plus ni moins que les bêtes. Combien as-tu payé ta franchise ?
75 livres.
Tu les possédais ?
Le travail d'une vie, mon sire.
Comment te nommes-tu ?
André, l'André Dubois, on m'appelle, parce que c'est pas de là que j'habite.
Le roi, qui n'était point ordinairement généreux, éprouva le désir de donner quelque chose à cet homme. Point une aumône, un présent. « Sois toujours bon serviteur du royaume, André Dubois, lui dit-il, et garde ceci qui te fera souvenir de moi. » Il détacha son corps, un beau morceau d'ivoire sculpté, serti d'or, et d'un prix plus élevé que celui dont l'homme avait acheté sa liberté. Les mains du paysan tremblèrent d'orgueil et d'émotion.
« Oh ça ! Oh ça ! » murmura-t-il. « Je le mettrai sous la statue de Madame la Vierge pour qu'il protège la maison. Que Dieu vous ait en garde, mon sire !»
Le roi s'éloigna, empli d'une joie comme il n'en avait pas connue depuis bien des mois. Un homme lui avait parlé dans la solitude des champs, un homme qui, grâce à lui, était libre et heureux. La lourde traîne du pouvoir et des années s'en trouvait allégée d'un coup. Il avait bien fait son travail de roi. « On sait toujours du haut d'un trône qui l'on frappe, » se disait-il. Mais on ne sait jamais si le bien qu'on a voulu est vraiment fait, ni à qui. Cette approbation qui lui venait inattendue des profondeurs de son peuple lui était plus précieuse et plus douce que toutes les louanges de cour. J'aurais dû étendre la franchise à tous les bailliages. Cet homme que je viens de voir, si on l'avait instruit au jeune âge, aurait pu faire un prévôt ou un capitaine de ville meilleur que beaucoup. Il songeait à tous les André Dubois, Duval ou Dupré, les Jean-Louis Deschamps, les Jacques du Hamel ou bien du Clos, dont les enfants, sortis de la condition serve, constitueraient une grande réserve d'hommes et de forces pour le royaume. « Je vais voir avec Enguerrand reprendre les ordonnances. » À ce moment, il entendit un « Raoult, Raoult, rauque, bref, sur sa droite, et il reconnut la voix de Lombard.
« Beau, mon valet, beau ! Rallie là-haut, rallie là-haut » s'écria-t-il.
Lombard était sur la voie, courant d'une foulée longue, le nez à quelques pouces du sol. Ce n'était point le roi qui avait perdu la chasse, mais tout le reste de la compagnie. Philippe le Bel ressentit un plaisir de jeune homme à penser qu'il allait forcer le grand Dicor seul avec son chien préféré. Il remit son cheval au galop et, sans notion du temps, à travers champs et vallons, sautant les talus et les barrières, il suivit Lombard. Il avait chaud et la sueur lui ruisselait tout le long du dos. Soudain, il aperçut une masse sombre qui fuyait sur la plaine blanche.
« Taille or !» hurla le roi. « À la tête, mon Lombard, à la tête !»
C'était bien le cerf d'attaque, un grand animal noir à ventre beige. Il n'avait plus son allure légère du début de la chasse. Son échine dessinait cette forme de hotte dont avait parlé le paysan et qui décelait la fatigue. Il s'arrêtait, regardait en arrière, repartait d'un bond pesant. Lombard aboyait plus fort de chasser à vue et gagnait du terrain. La ramure du Dicor intriguait le roi. Quelque chose y brillait par instant, puis s'éteignait. Le cerf n'avait rien pourtant des bêtes fabuleuses dont les légendes étaient pleines, tel le cerf de Saint-Hubert, infatigable, avec sa croix d'église plantée sur le front. Celui-ci n'était qu'un grand animal épuisé, qui avait fait une chasse sans finesse, filant droit devant sa peur à travers la campagne, et qui serait bientôt aux abois. Ayant Lombard au jarret, il pénétra dans un bouqueteau de hêtres et n'en ressortit point. Et bientôt la voix de Lombard prit cette sonorité plus longue, plus haute, à la fois furieuse et poignante, que les chiens émettent quand l'animal qu'ils poursuivent est à la lie. Le roi, à son tour, entra dans le bouqueteau. À travers les branches passaient les rayons d'un soleil sans chaleur qui rosissait le givre. Le roi s'arrêta, dégagea la poignée de sa courte épée. Il sentait entre ses jambes cogner le cœur de son cheval. Lui-même était haletant et aspirait l'air froid à grandes goulées. Lombard ne cessait de hurler. Le grand cerf était là, adossé à un arbre, la tête basse et le mufle presque à ras du sol. Son pelage ruisselait et fumait. Entre ses bois immenses, il portait une croix, un peu de travers et qui brillait. Ce fut la vision qu'eut le roi l'espace d'un instant, car aussitôt sa stupeur tourna au pire effroi. Son corps avait cessé de lui obéir. Il voulait descendre, mais son pied ne quittait pas l'étrier. Ses jambes étaient devenues deux bottes de marbre. Ses mains, laissant échapper les rênes, restaient inertes. Il tenta d'appeler, mais aucun son ne sortit de sa gorge. Le cerf, la langue pendante, le regardait de ses grands yeux tragiques. Dans ses ramures, la croix s'éteignit, puis brilla de nouveau. Les arbres, le sol et l'ensemble du monde se déformèrent devant les yeux du roi, qui ressentit comme un effroyable éclatement dans sa tête. Puis un noir total se fit en lui.